programme. Et à la prochaine.
Bienvenue à bord.
Les passagers de Aventure sont priés de monter à bord.
Bon voyage, monsieur. Bon voyage, madame. Bienvenue à bord.
Bon voyage tout le monde les amis, ici c'est votre commandant de bord Roger Moutou, la voix de l'Amérique en direct de Washington DC. Attachez bien vos ceintures de sécurité parce que vous savez qu'aujourd'hui c'est jeudi, qui dit jeudi dit African Music, mais aussi notre sujet de la semaine. On en parle dans un instant, attachez bien vos ceintures de sécurité, on décolle. Voilà les amis, nous venons de décoller, de quitter Washington, la grande capitale américaine. On va traverser l'Atlantique, bien sûr, avec notre sujet de cette semaine. Mais j'en profite d'abord pour saluer, en tout cas, tous nos auditeurs, tous nos téléspectateurs, vous qui nous captez, vous qui restez fidèles à nous capter chaque soir entre 20h à 21h, temps universel. Ça nous fait tellement, tellement plaisir. Et votre commandant de bord, Roger Moutou, la voix de l'Amérique, vous dit merci infiniment. Et bien sûr, au cours de ce périple radiophonique de ce soir, comme j'aime bien le dire, vous retrouverez bien sûr nos segments habituels. Hein. Georges Léonard Sagnon sera bien sûr avec nous en plateau ce soir. Et Lionel Romanira Gaïma et bien sûr le grand Jean-Louis Mafema. Mais nous aurons aussi un invité, notre invité ce soir. Il n'est plus à présenter en tout cas, mais on vous réserve la surprise. Mais il n'est plus à présenter en tout cas ici sur VO Afrique. Attachez d'abord vos ceintures de sécurité. Tout de suite on décolle avec ce morceau que j'adore. Oui! Elle est superbe, superbe, superbe. J'adore sa musique parce qu'elle est malienne. Elle a une très belle voix et vous savez, les maliennes, là, ne blague pas. Elle s'appelle Black Adé. On écoute cette superbe chanson et nous revenons dans un instant.
Mali, 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 M
Ah oui, vous écoutez Black Adi, hein, Black Adi, j'adore cette voix, une très belle voix, oui, je suis malienne. Elle nous rappelle qu'elle est malienne, évidemment, nous on adore le Mali, parce qu'on dit, RMCHO à Kadikoudjougou, c'est ce qu'on dit là-bas en tout cas, à Bamako au Mali. Je salue tous nos amis qui sont en train de nous capter dans tous les grains là-bas du Mali, on est ensemble, mais c'est une très 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 bonne chose. Et Georges, avant d'avoir notre invité de ce soir, est-ce que tu peux me jouer notre chanson là qui vient après, là, y'a Inos Bila? Joue-moi cette chanson-là, et avant d'avoir... parce que je voulais vraiment... un ami m'a demandé Inos B ce soir, je pense qu'il est déjà prêt. On écoute cette chanson de Inos. De Safari qui nous capte à Bukavu ce soir. Il m'a demandé là, dit Roger, je vais écouter Maboko Milaï. On écoute. Là, vous êtes en train de capter cette superbe chanson de Inos B et Awilo Longomba. Merci beaucoup à notre ami Safari qui nous capte à Bukavu chaque soir entre 20h et 21h, temps universel. Et il a fait cette demande, il a dit, Roger, c'est mon anniversaire aujourd'hui, je voulais écouter vraiment Maboko Milaï de Inos B et de Awilo Longomba. Nous allons à présent à New York pour retrouver notre invité, hein. Je ne vous avais pas dit son nom, mais lui, c'est Henri Désiré Nzouzi, qui n'est plus à présenter, comme je le disais au début, bien sûr. Je rappelle que Henri Désiré Nzouzi est producteur du GT Diplomatique, il est contributeur à VOA et consultant Medi One TV. Il nous rejoint de New York sur Skype. Henri, bonsoir Henri.
Bonsoir Roger, merci infiniment de m'accueillir.
On n'a pas eu la chance de voir Henri à Washington. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe, Henri?
Disons que l'actualité aidant, je me suis retrouvé ici pour suivre l'Assemblée générale des Nations Unies.
Exactement.
Voilà, heureusement que vous vous êtes souvenu de moi.
ou je pense que c'est le contraire.
On va dire ça comme ça.
Henri, c'est toujours un grand plaisir. Alors comment d'abord ça se passe à New York? Quel temps il fait là-bas, hein?
Ah bah il fait très beau, hein. Ouais. Il fait très beau. Hier, il y a eu une petite pluie, ouais. Mais aujourd'hui...
Je m'imagine.
Ouais. Plus c'est marrant parce que c'est le 21 septembre, donc c'est le premier jour de l'automne.
Ah, ça
C'est assez paradoxal, mais il fait très beau. On joue les prolongations avec l'été, mais c'est pas plus mal.
J'aime bien comment tu dis ça, les prolongations. Ça, c'est sûr. Bah, alors, Henri, pour ma caméra, je te vois un peu trop close. Si tu peux reculer juste un peu pour que ta tête ne se coupe pas. Voilà. Là, je te vois vraiment mieux. C'est mieux que tu sois un peu éloigné de la caméra. Comme ça, je te vois. Sinon, ça se coupe. Mais écoute, Henri, moi, je disais, c'est la chance de... vous avoir, parce que vous êtes à New York, au cœur de là où tout se passe, et comme notre sujet cette semaine, c'est un sujet très important qui nous avait été aussi proposé par nos téléspectateurs et nos auditeurs, comme vous le savez Henri, qui nous capte de partout dans le monde, la grande question c'est que doivent faire les dirigeants mondiaux pour rétablir la confiance et de raviver la solidarité mondiale, en particulier alors à la lumière des défis actuels tels que la pandémie de Covid-19, parce qu'il faut dire que cette Covid-19 est encore là, en tout cas avec nous, et les conflits internationaux, hein, ce qui est précis. Mais alors, la collaboration, Henri, parlons de la collaboration internationale. Ces dirigeants qui sont là-bas doivent promouvoir une coopération internationale renforcée en favorisant le dialogue, d'après beaucoup qui nous ont répondu sur les réseaux sociaux, en établissant des partenariats et en renforçant les relations diplomatiques. Cela peut inclure la participation à des forums internationaux, la négociation d'accords multilatéraux et la résolution pacifique des conflits. Est-ce que vous avez comme impression, en étant là-bas au cœur de New York, que c'est comme ça que ça se passe là-bas?
Alors, d'abord, il y a un très mauvais signal qui a été lancé par 4 des 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité. Seul Joe Biden est présent ici à New York. Aucune trace d'Emmanuel Macron, aucune trace de Xi Jinping, aucune trace de Poutine et aucune trace du Premier ministre britannique. Alors, comment interpréter cela? L'histoire nous le dira. Mais on a quand même la satisfaction d'avoir une Afrique très bien représentée, puisque les principaux ténors du continent, du nord au sud, de l'ouest à l'est, on pense évidemment à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, on pense à Macky Sall, on pense à Paul Kagame, on pense au président sud-africain Ramaphosa, ils sont venus, ils sont tous là, ils ont délivré leur message. Faire un diagnostic de la situation globale. Aujourd'hui, on sait que depuis presque 2 ans maintenant, puisqu'au mois de février prochain, c'est dans 5 mois, nous aurons atteint les 2 ans dans le conflit ukrainien, nous avons assisté à une véritable déflagration, à une fragmentation géopolitique et stratégique qui a eu pour effet de recomposer les blocs ou de faire et défaire les alliances. Et c'est là précisément que l'Afrique pourrait tirer son épingle du jeu, à condition d'être vigilante, à condition d'être rationnelle dans ses prises de position, et aussi à condition d'être en capacité de mutualiser ses efforts pour converger vers un seul et même objectif. Aujourd'hui, l'ONU a 78 ans, il est temps que l'ONU puisse se réformer, il est temps que l'Afrique puisse prétendre un siège de membre permanent au Conseil de sécurité. Vous savez qu'il y a de cela quelques jours, l'Afrique a fait son entrée au G20. Il faut relativiser bien évidemment cette présence au G20, parce que si vous prenez l'Afrique entière, si on transpose le continent au niveau des pays développés et industrialisés, l'Afrique serait la 9e puissance économique.
Exactement.
Et donc, sa place au G20 est tout à fait justifiée, mais encore faut-il qu'en interne, que les Africains soient en capacité de cheminer ensemble et de se retrouver sur des sujets essentiels. Aujourd'hui, on voit que ça va un peu dans tous les sens, on se cherche, on essaie de trouver des alliés qui ne sont pas trop regardants sur la politique intérieure, qui ne sont pas trop regardants sur les principes, mais qui surtout vous respectent dans le cadre d'une coopération bilatérale qui se veut mutuellement profitable. Ouais. Cela étant, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Vous savez qu'en 2015, par exemple, au mois de septembre, 193 pays avaient décidé d'adopter ces fameux objectifs de développement durable. Nous sommes à l'heure actuelle à 6 ans et demi, à moins de 7 ans de l'échéance, et il y a effectivement des inquiétudes sur la capacité de certains pays africains d'atteindre ces fameux objectifs qui ont succédé aux objectifs de millénaire pour le développement qui allaient de 2000 à 2015, et on a vu que sur les 54 pays africains, très très peu, en moins de 10 en tout cas, avaient réussi à atteindre ne serait-ce que la moitié des objectifs. À l'époque, il y en avait 8 pour pouvoir être en position d'être éligible dans le cercle des pays émergents. Il y a du travail à faire, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir dans la discussion.
Et ça, c'est très important, évidemment. Vous avez parlé des objectifs, hein, Henri. Les ODD ou les ODD sont au cœur de l'agenda 2030 des Nations Unies. Et vous, en tant qu'expert, en tout cas, hein, c'est ce domaine que vous suivez de très près d'ailleurs, comment pensez-vous que ces dirigeants mondiaux, Henri, peuvent-ils s'assurer que ces objectifs restent une priorité dans leur politique d'action, si je dois le dire ainsi, en dépit disons qu'il y a aussi des pressions, hein, en dépit des pressions politiques ou des pressions des priorités qui changent par-ci par-là. Comment pensez-vous qu'ils peuvent faire ça, hein?
Alors, on va pas se mentir, hein, les pays les plus industrialisés sont d'une certaine manière exemptés de l'exercice. Mais ouais, la clé réside véritablement dans la bonne gouvernance. Pourquoi ouais, je dis ça ? Parce qu'en fait, on se rend compte que lorsque l'on décide comme ça de proposer des plans pour essayer de réduire ou d'éradiquer la pauvreté, on ne tient pas toujours compte des situations spécifiques à chaque pays. Chaque pays évolue à son rythme. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que une des raisons pour lesquelles nous risquons, en tout cas en Afrique, de ne pas atteindre ces objectifs à l'horizon 2030, c'est parce que nous avons perdu 2 ans, 3 ans à cause de la Covid. Cela a remis considérablement en cause les stratégies, les mécanismes qui ont été mis en place. Et puis, le conflit ukrainien est venu aggraver
exactement
la situation. Au niveau notamment des céréales, on peut effectivement s'étonner que l'Afrique, en réalité, est en capacité de faire fonctionner à peine 10% de son agriculture, et c'est encore cette même Afrique qui est obligée d'importer certains intrants d'Ukraine, ce qui est totalement ridicule et inacceptable. Donc il faut que les Africains soient effectivement en capacité de changer de paradigme et de ne plus, rester de manière éternelle dans une position victimaire et victimisante, en reprochant sans cesse aux pays industrialisés d'être la cause de leur malheur. Certes, il y a une responsabilité, notamment lorsque l'on parle du dérèglement climatique, mais lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre des politiques volontaristes, lorsqu'il s'agit de faire des réformes structurelles pour améliorer les conditions de vie et le bien-être des populations, là, les Africains sont leurs propres responsables. Et donc je pense que là il faut absolument que l'on puisse assister à un sursaut. Ce n'est pas forcément évident, et vous remarquerez d'ailleurs que lorsque l'on regarde les pôles de compétitivité et de prospérité sur le continent africain, ils se répartissent globalement entre l'Afrique australe, une partie de l'Afrique de l'Est, très peu de pays d'Afrique de l'Ouest, hein, peut-être au niveau de la Côte d'Ivoire, du Nigeria, maintenant le Bénin qui monte effectivement avec un certain nombre d'avancées dues à son président Talon. Il y a de l'audace, il y a de l'innovation, mais il y a encore une Afrique à la traîne. Aujourd'hui, il y a trois Afriques qui cohabitent en fait. Vous avez une Afrique qui est dans la contestation, dans la protestation. C'est une Afrique qui est sujette aujourd'hui à des coups d'État. C'est une Afrique qui est secouée par une opinion publique majoritairement constituée de jeunes qui veulent rompre avec un modèle néocolonial qui leur a été imposé.
On a vu ça vraiment sur les réseaux sociaux, partout. Hein.
Absolument, tout à fait. Vous avez une Afrique qui se bat, c'est-à-dire qui, malheureusement, est la victime collatérale ou expiatoire de politiques hasardeuses de pays prédateurs. Et il y a cette Afrique qui travaillent, qui gagnent même, je viens de l'évoquer, dans certaines zones du continent et qui a des taux de croissance qui sont extrêmement attractifs et compétitifs et qui donnent une idée sur le potentiel de ces pays, à l'image un peu de ce qu'étaient les dragons du sud-est asiatique dans les années 80 et 90.
Exactement.
Je dirais qu'il y a de l'espoir, mais à condition,
à condition
d'avoir une prise en compte rationnelle de la réalité et à condition d'engager les réformes nécessaires pour que la bonne gouvernance soit véritablement au cœur des préoccupations. Ouais. Parce que c'est là, finalement, la clé. Les plans les plus audacieux peuvent être élaborés, mais tant qu'il n'y a pas un sursaut,
ça serait toujours
une manière efficace de pouvoir mener à bien ces différentes réformes, eh bien, les choses risquent d'être
assez compliquées. Une personne serait très d'accord avec vous sur ça, c'est mon collègue Georges-Léonard Sagnon. Ça, il serait vraiment d'accord. Vous avez parlé de la pandémie, vous et moi, Henri Désiré Zouzi, on a fait des émissions pendant cette période de Covid-19. Alors, cette pandémie de Covid-19 a révélé des irrégularités criantes, si je peux le dire ainsi, dans l'accès aux ressources médicales et aux vaccins. Comment pensez-vous, Henri, que ces dirigeants peuvent-ils garantir une distribution, merci Georges, une distribution beaucoup plus équitable des ressources de santé pour renforcer la solidarité dont on parle, parce qu'on parle de la solidarité mondiale quand même.
Alors, autant personne n'a vu venir la Covid, évidemment des spéculations qui entourent l'origine du problème, et effectivement on peut dire que les États n'étaient pas libres et égaux devant le traitement. C'est pour cette raison d'ailleurs que on a vu qu'il y avait une fracture civilisationnelle entre d'une part les pays qui avaient les structures médicales appropriées pour apporter les premiers soins aux premières victimes, et puis vous aviez une partie du monde, en l'occurrence l'Afrique, totalement livrée à elle-même, abandonnée, qui a dû effectivement se battre pour trouver des mécanismes pour pouvoir faire un plaidoyer finalement qui a abouti et qui a abouti à la mise en place du centre de prévention des crises. C'est quand même un acquis important au niveau de l'Union africaine. Ce sont des leçons que nous devons tirer. On a bien vu en fait que la solidarité entre les pays était à géographie et à géométrie variable. Et donc l'Afrique s'est véritablement rendu compte de sa vulnérabilité, et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'aujourd'hui cette même Afrique se bat dans certains pays notamment pour qu'il y ait effectivement une production suffisamment, je dirais, avancée dans la recherche médicale. Même si on sait évidemment aujourd'hui que vous avez des zones où il y a effectivement une forte concentration de traitements qui sont mis à la disposition du plus grand nombre, et donc il faut évidemment, je dirais, s'assurer de la fiabilité, puisque les plus grandes réserves subsistent évidemment sur la qualité et l'efficacité de certains traitements.
Ça c'est sûr. Henri, restez avec nous, on va respirer en musique. Vous connaissez mon émission, c'est aussi la musique. On écoute ce morceau de Ayra Star Rush. Nous revenons dans un instant.
You must hustle if you want job. If no finish, they won't fight us. If them they run, them no fit catch up. I know they form say I too righteous. No come they form say you too like us. You no get the time for the hate and the bad energy. Come on, mind on my money. Make you dance like broccoli. Steady going like broccoli. Steady on my grind, you know, yeah, what they want. Then we could be down my fantasy. You want to check it, my daddy, you know. Money we got, yeah. He did all, he did all square.
that I did go Ghana. You never thought you'd come back, back. This kind of money you will never see before. Cause hello me, for me feeling I'm the one.
Je vous une émission de Vœux Afrique en direct de Washington DC, la capitale américaine. Merci beaucoup aux amis qui sont en train, merci aux amis qui sont en train de nous suivre bien sûr à Lunga Norte. Merci aux amis qui sont en train de nous capter aussi en Europe, hein, parce qu'ils sont nombreux aussi. Merci, ils sont en train de nous écrire, ils sont en Italie, ils sont en France, ils sont en Belgique, ils sont en Grèce, en Allemagne. Merci beaucoup à eux. C'est bien sûr grâce à la technologie aujourd'hui. Hein. Merci aux amis qui nous captent sur notre page Facebook. Je rappelle que ce Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et bien sûr, c'est toujours un grand plaisir de savoir que tous nos amis nous captent partout dans le monde et que le son, on m'avait dit que le son n'était pas fort. Ben, je pense hier, on m'avait dit que c'était pas fort, mais aujourd'hui, je pense, j'espère que le son est fort parce qu'on a fait quelques ajustements. N'oubliez surtout pas aussi de réagir. Je veux voir déjà qui nous a écrit sur WhatsApp pour lire vos commentaires et vos réactions. Dites-nous un peu où est-ce que vous êtes en train de nous capter. On va voir qui nous a écrit déjà là-bas pour saluer nos amis. Ibrahim Kone au Mali nous salue. Merci beaucoup à Ibrahim Kone. Merci aussi à notre ami Alvin Kabouya. On passe d'abord à l'anglais. Oui, on passe à l'anglais avec Michel Joseph, comme on le fait chaque soir entre 20h à 21h. Temps universel, l'anglais, c'est tout de suite. Et voilà, j'entends les cards. Si on peut enlever les cards, ça serait super. Merci beaucoup, les amis. Vous écoutez RM Show, une émission de Vœux Afrique en direct de Washington, d'ici la capitale américaine. L'anglais, c'est tout de suite.
Hello, Roger.
Salut, Roger.
Hello, everyone.
Bonjour, tout le monde.
The word of the day,
le mot du jour,
strong. S-T-R-O-N-G.
Fort, solide, puissant.
He's a strong man.
C'est un homme fort.
She's a strong woman.
C'est une femme forte.
It's a strong idea.
C'est une idée puissante.
Give me a strong hand. I need to push this closet.
Prête-moi main forte, j'ai besoin de pousser cette armoire.
You are the strong voice in this movement.
Tu es la voix dominante de ce mouvement.
You are my strong support in this process.
Vous êtes un fort soutien dans ce processus.
Back to you, Roger.
Very much. Thank you very much, Michel Joseph. Thank you so much for this great English lesson. Grâce à elle, bien sûr, on apprend toujours. Restez avec nous, la deuxième partie de RM Show. C'est dans un instant. On continue notre discussion ce soir avec Henri Désiré Nzouzi qui nous a fait cet honneur d'être notre invité ce soir. God bless. Peace, Africa.
Calho, 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 calho
RM Show, let's go les amis, ici c'est votre commandant de bord, Roger Muntou, la voix de l'Amérique en direct de Washington DC, la capitale américaine. Oui, on parle actualité oblige hein, de notre sujet de cette semaine. On vous l'a dit depuis le lundi que la 78e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies marque une étape décisive hein, sur la voie de la réalisation de l'agenda 2030 et de la nécessité urgente de replacer les 17 objectifs de développement durable ou ODD, comme ils aiment bien l'appeler, au cœur du débat. Et aujourd'hui, qui d'autre à voir que notre ami, collègue, contributeur de VOA, Henri Désiré Nzouzi. Je rappelle qu'il est aussi producteur du GT diplomatique, contributeur à VOA et consultant Mehdi One TV. Henri avec nous à Manhattan, en train de manger les hot dogs américains tout seul, sans nous inviter. Ben, il n'y a pas de problème, Henri. On se verra un jour à New York. Henri est toujours là avec nous, n'est-ce pas, Henri? C'est ça, hein?
On est là.
on est là. Alors, désolé, tu dis bonsoir à Henri. Henri avec nous, hein? Jean-Louis, tu dis bonsoir.
Henri, bonsoir, ouais. Henri, comment ça va?
Bonsoir. On ne t'a pas vu à Kinshasa.
Ah, ouais.
Non, mais j'étais ailleurs. J'étais en train de...
Ah, il était en train de savourer la vie. Hein.
De savourer la vie, comme Roger dit, ouais. Voilà.
Tu as annoncé la grande nouvelle à Henri, pas encore, hein?
Oui, pas encore. En fait, oui, c'est... Ouais. Ouais, mon mariage, c'est le 14 octobre. Disons, le mariage... Ouais. Religieux, parce que le coutumier et le civil a déjà été fait, mais il fallait que... Ouais, ça c'était la dernière cerise au gâteau.
Félicitations.
Et, merci. Et je n'ai pas besoin de ta permission, j'invite mon ami et frère Henri Désiré.
Il n'y a pas de problème du tout, pas de problème.
Fait. C'est fait à l'antenne.
Bon,
c'est
voilà. À l'antenne. L'invitation va suivre.
L'invitation va suivre. On reprend alors, on va continuer avec notre sujet. Henri, la transparence et la communication sont aussi essentielles hein, pour établir la confiance. Quelles mesures spécifiques pensez-vous que ces dirigeants peuvent-ils prendre pour améliorer la communication avec leurs citoyens et la communauté internationale? Parce que beaucoup qui nous ont écrit disent, Roger, des fois on manque cette communication avec nos dirigeants. On ne trouve pas cette communication entre nos dirigeants et la communauté internationale. Donc il y a un problème communicationnel, si je veux le dire ainsi.
Alors, je pense que l'exigence de transparence commence et avant tout en interne, les opinions publiques, avec les populations. Il faut que les mécanismes permettant d'informer le citoyen de toute situation soient mis en place. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas communiquer sur de mauvaises nouvelles. Et donc, la tentation sera toujours très grande de relativiser.
Et en parlant de mauvaises nouvelles, Henri, on a besoin d'éclaircissement un peu. Qu'est-ce que vous voulez dire par des mauvaises nouvelles, toujours? Par exemple.
C'est-à-dire que vous ne pouvez pas annoncer à l'opinion une information qui va provoquer la panique. Donc, il va y avoir un travail de préparation.
Que
l'on doit former davantage de personnes ou même d'institutions à ce que l'on appelle la communication de crise. Chaque mot a son importance. Un mot de travers, et c'est la panique. Et à ce moment-là, le remède finit par s'avérer pire que le mal. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut impérativement éviter. À un niveau supérieur, différent, lorsque vous êtes un État souverain, indépendant, ayant librement souscrit à toute une série d'accords et de conventions internationales, vous avez aussi une manière de communiquer à l'extérieur. Et cette manière de communiquer donnera une idée sur votre degré de fiabilité et de crédibilité. Vous savez, la parole d'un État à l'international, c'est très important. Si vous n'avez aucune crédibilité, malheureusement, vous passez à côté de beaucoup d'opportunités et donc vous vous privez inutilement de moyens qui pourraient vous permettre, je dirais, d'amener votre pays sur la voie du développement.
Ouais.
La dernière chose qui me paraît quand même importante, c'est de pouvoir organiser des réseaux communicationnels qui vous permettent d'être informé en heure et en temps. Pour un État, ça commence bien évidemment à l'extérieur par les missions diplomatiques, ça passe également par le réseau de fonctionnaires internationaux que vous avez réussi à placer dans les différentes organisations internationales. Je rappelle que la règle pour que vous puissiez placer des gens, c'est que vous soyez régulièrement en ordre de cotisation.
Évidemment.
Et régulièrement.
Évidemment.
Vous ne venez pas en touriste.
Ouais.
Les choses ne se passent pas comme ça. Et ce n'est pas surprenant qu'en Afrique subsaharienne, par exemple, ce sont quasiment les mêmes pays qui envoient des représentants occuper des postes importants. Je pense à l'Afrique de l'Ouest, par exemple, on a beaucoup de Sénégalais, d'Ivoiriens, de Maliens, de Guinéens. Il y a une surreprésentation qui est essentiellement due au fait que ces pays-là ont réussi, avec l'expérience, avec les années, à pouvoir préserver, maintenir une certaine influence. Cela étant, on ne va pas se mentir, la France y est aussi pour beaucoup, puisque la France devait aussi maintenir, je dirais, à travers son instrument d'influence, qui est la diplomatie, un certain nombre de réseaux lui permettant d'être informé en temps et en heure. Et cela peut se faire dans le cadre d'un échange de bons procédés, puisque tu m'amènes ceci, je te répondrai par ceci, en échange de tel ou tel avantage. Ça n'a rien de choquant, que du contraire, puisque vous savez que les États n'ont que des intérêts. Et on ne cessera de le répéter ici. C'est pour ça que quand je vois certains pays aller pleurnicher aux Nations Unies, je m'interroge, parce que aujourd'hui, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Alors, évidemment, on peut se réduire, se réjouir du fait que vous avez ce qu'on appelle les partenaires traditionnels qui sont aujourd'hui en perte de vitesse sur le continent africain. On pense évidemment aux pays occidentaux, au premier rang desquels les pays européens, les États-Unis, qui sont fortement bousculés dans leur certitude par l'émergence de nouvelles puissances qui, elles, ont apporté, ou en tout cas proposent à l'Afrique, une offre alternative en termes de vision économique, en termes de vision de développement, en termes de coopération, puisque là, il n'y a pas de conditionnalité, et puis surtout, il y a, je dirais, une abstinence totale par rapport aux affaires de politique intérieure. C'est-à-dire qu'on ne va pas se mêler de ce que vous faites en interne. En échange, nous vous demandons un accès à vos ressources et nous nous mettons à votre disposition pour développer éventuellement les infrastructures. Il faut quand même rappeler, c'est très important, le choc qu'a constitué l'opération spéciale russe en Ukraine, ça a eu le mérite effectivement de reconfigurer totalement le monde, puisque aujourd'hui, on va dire que la plupart des pays africains aujourd'hui parlent sans aucun complexe et n'ont aucune, réticence ou aucune réserve à pouvoir s'afficher ou à se donner à tel ou tel bloc, puisque aujourd'hui, il faut bien savoir que ce qui se passe à l'heure actuelle en Ukraine n'est pas seulement une occasion pour les Africains de s'affranchir d'une forme de tutelle occidentale, mais c'est aussi une opportunité pour des puissances émergentes de régler leur compte avec l'Occident. Mais il ne faut pas que l'Afrique se retrouve dans une sorte de statut de variable d'ajustement que l'on utilise pour embêter les Français, embêter les Américains, uniquement pour rééquilibrer les choses.
Et donc, ça, je comprends bien. Et parlons un peu, parce qu'on a aussi évoqué un peu brièvement quand même les conflits en Afrique de l'Ouest. Vous venez aussi de parler de l'Ukraine. Ces conflits internationaux, Henri, restent, on est tous d'accord, un défi majeur alors pour la paix et la sécurité mondiale, en tout cas, à ce niveau-là.
comment pensez-vous que ces dirigeants, encore une fois, peuvent-ils jouer un rôle plus actif dans la médiation des conflits et même, je vais même aller plus loin, la promotion même de la résolution pacifique de différends, si je dois le dire.
Alors, je dirais que la réflexion se fait à deux niveaux. Si ouais. l'on part du continent africain, l'Afrique n'a pratiquement pas droit de citer dans la manière d'aborder le problème ukrainien. On a vu la tentative, je dirais presque ridicule, de médiation de l'Afrique, mais c'était une manière aussi de montrer que l'Afrique existe.
Mais on est d'accord qu'il y a eu des répercussions de cette...
Alors, le fait que l'Afrique, une certaine Afrique en tout cas, reste encore largement tributaire de produits céréaliers
ukrainiens,
ouais. montre à quel point elle est dépendante.
Ouais.
Mais
ouais, ça, c'est vrai.
Si cette dépendance n'existait pas, il n'y aurait pas eu cette médiation-là. Ça, c'est un premier problème. La deuxième chose, aujourd'hui, vraiment, je vous le dis, c'est vraiment chacun pour soi, Dieu pour tous. On a critiqué les Occidentaux lorsqu'il y a eu à Rotterdam, il y a de cela plusieurs mois, un sommet sur l'adaptation des pays africains au changement climatique. Aucun pays pollueur n'est venu discuter avec les Africains. C'est normal. Ces pays ont d'autres chats à fouetter. Lorsque vous dépendez du pétrole russe, lorsque vous dépendez du gaz russe, lorsque vous êtes en période électorale, que vous devez rendre des comptes à votre pays, vous n'avez pas le temps d'aller discuter sur l'avenir des Africains. Les Occidentaux doivent d'abord régler leurs problèmes. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et je pense que ce que nous devrions faire, nous, Africains également, c'est prendre exemple. Je ne dis pas ça de manière cynique, mais je pense qu'il faut hiérarchiser ses priorités et savoir véritablement où se trouve notre intérêt du moment, plutôt que de rester éternellement dans cette posture victimaire et victimisante. Ce qui se passe en Ukraine impacte fortement l'Afrique, on l'a bien compris. Qu'est-ce qu'il nous reste finalement? Il nous reste en fait les blocs qui commencent petit à petit à se constituer, qui pour certains deviennent une forme d'alternative au modèle occidental qui a montré ses limites. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et là, vous avez des pays africains comme le Mali, le Niger, la Guinée, le Burkina, qui voient comme ça des institutions être balayées par des coups d'État avec en toile de fond un très fort ressentiment occidental et parfois de conséquences français. C'est un signal qui est lancé, qui est envoyé à l'endroit non seulement des pays occidentaux, mais surtout des élites africaines. Parce que ces mêmes élites africaines ont été très complaisantes des années durant. Elles ont fait semblant de prendre conscience des problèmes auxquels était confrontée leur propre population, tout en étant dans une forme de servitude volontaire à l'égard des Occidentaux. Et ça, c'est terminé. Aujourd'hui, le monde a véritablement changé. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que je pense que dans les prochaines années, assez rapidement d'ailleurs, nous allons voir une Afrique totalement décomplexée émerger, avec une liberté totale dans le choix de ses alliés, n'en déplaise aux partenaires traditionnels, qui vont devoir accepter l'idée que l'Afrique peut se choisir les partenaires de son choix. Et ça, c'est très, très important. Et surtout, être présent là où les choses se décident pour l'Afrique. Il n'est plus question que l'on décide à la place des Africains.
Moi, j'ai une question. Que pensez-vous du BRICS, de ce petit groupe qui veulent faire en sorte à ce que le dollar ne soit plus nécessairement la monnaie dominante sur les marchés internationaux?
Alors, 2014, c'est évidemment la création des BRICS avec une idée qui est très noble au départ, c'est de proposer une alternative aux institutions de Bretton Woods, héritées de 1944. On pense évidemment au FMI et à la Banque mondiale. Ces deux institutions ont régenté le monde durant plus de 70 ans. Ils continuent encore à le faire dans certaines conditions. Et donc, l'alternative, c'était de proposer aux pays en voie de développement et aux pays émergents un nouveau modèle de financement fondé davantage sur d'abord le respect mutuel, sur, je dirais, la compréhension et sur l'absence totale d'ingérence dans les affaires intérieures. Ça, ça a été le premier objectif. Mais il n'y avait pas foule pour pouvoir constituer ce bloc. On rappelle Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Ces cinq pays, à l'heure actuelle, avant l'élargissement qui aura lieu le 1er janvier 2024, qui va accueillir six nouveaux pays, avant cet élargissement-là, ces pays représentaient 40% de la population mondiale et 30% du PIB mondial. Ouais. Pour autant, au-delà des chiffres qui sont impressionnants, quand vous prenez le revenu par tête d'habitant de ces pays, il est 3 fois moins important que le bloc occidental. Mais c'est une alternative au monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, un monde dominé par les Occidentaux.
Et donc, pour les Africains,
c'est effectivement extrêmement attractif et très séduisant de pouvoir se tourner vers d'autres partenaires. Maintenant, vous avez ce que l'on appelle les agendas cachés. Parce que si vous voulez contrarier les Américains, les Français, les Anglais, les Canadiens, bah, rien de tel que de se constituer en bloc pour aller chasser sur les terres de ces partenaires traditionnels. Et le terrain le plus commode à l'heure actuelle, c'est bien évidemment l'Afrique, où vous avez ces pays qui, aujourd'hui, sans complexe, réussissent même à occuper la première place en termes d'investissement direct étranger. Mais au-delà de ça, vous avez eu un effet amplificateur dû à la crise en Ukraine qui a profondément fragmenté le monde et qui montre aujourd'hui, en réalité, que vous avez 3 blocs.
Exactement.
Le bloc occidental, évidemment, le bloc BRICS, qui doit encore démontrer son homogénéité, puisque vous savez qu'en interne, la rivalité entre la Chine et l'Inde devient de plus en plus. Et puis vous avez des pays qui viennent d'intégrer.
Exactement.
Et parmi ces pays-là, vous avez des ennemis héréditaires. Hein, on pense à l'Iran et à l'Arabie.
Et nous revenons, Henri, parce qu'on m'a dit qu'avec le temps, on doit passer un petit morceau de musique. Reste avec nous, ne va nulle part, Henri. On va continuer parce qu'il y a aussi Georges Narsagno qui avait une question pour vous, évidemment. On respire un peu en musique avec Flavor. Nous revenons dans un instant.
Mr. Flavor, can you do me a favor?
Bye. Cause we are wet 24, we are hips 44, we are 24. I love my baby, jealousy, jealousy.
Et voilà, c'était la Flavor. J'adore ce garçon parce qu'il est très très fort en tout cas. Super, super, super. On est ensemble et je ne sais pas comment on peut avoir une émission sans avoir les sports avec Georges Léonard Fagnon. GLS nous rejoint dans un instant. Préparez-vous. Je pense qu'on a un problème de ma vidéo là pour introduire Georges, mais on peut reprendre la caméra. Je vais parler avec Georges sur place. Hein. Oui, c'est Georges qui nous rejoint. Si on peut reprendre, voilà, Georges, on a fini avec nous. Georges, je ne sais pas ce que tu as fait avec mes équipements là-bas. Je vois que.
Nénitosalité.
Tu sais que tous les Quinois adorent quand tu dis ça. J'ai rencontré des Quinois qui me disent, il faut dire à Georges, quand il dit nénitosalité, avec son accent là. Non, c'est exotique quoi.
Merci.
Hein? C'est vraiment, vraiment.
C'est Kitoko. Hein?
Alors, Georges, c'est de quoi on parle dans notre segment sportif aujourd'hui?
Oui, Roger, quand on parle de l'Assemblée générale des Nations Unies, on ne peut pas ne pas parler de sport.
Ah oui,
parce que tous les sportifs sont donc regroupés à New York. En effet, Roger, avec la présence de son président Amadou Gallo Fall, le Sénégalais que vous connaissez bien, patron de la NBA Afrique, qui dit être venu faire connaître davantage le fruit de la NBA sur le continent. On va l'écouter.
Un événement comme celui-là nous présente l'opportunité d'aller vers les supporters, d'engager de nouveaux fans dans cette aventure. Avoir Claire Akamanzi ce matin, qui est le CEO de Rwanda Development Board, notre partenaire principal, qui a parlé de ce que le partenariat signifie pour le Rwanda, et nous aussi sur le même panel, le Rwanda Development Board est notre premier partenaire. Parler de la destination de Kigali où on joue le final, où nous avons renouvelé le partenariat pour les prochaines 5 années, ça veut dire que c'est un partenariat qui marche. Il y a déjà beaucoup de monde ici autour du sommet des Nations Unies qui viennent de différents pays du monde et de la diaspora africaine qui ont exprimé le désir de venir assister au final à Kigali ou bien aussi dans les autres pays où on va jouer.
Et vous suiviez le Sénégalais Amadou Gallo Fall qui est actuellement dans la Big Apple à New York City, Roger, que nous aimons bien. Et cette interview a été obtenue grâce aux soins de nos envoyés spéciaux, Simus Lumami et Mayra Fernandez du service portugais. Roger, c'était tout pour le segment sport.
Merci beaucoup, Jules. Merci infiniment. On va respirer un peu la musique avant de recevoir Lionel qui sera aussi avec nous
tout
pour sa blague
pour
du jour.
Comédie, hein.
Voilà, super. La musique et nous revenons pour recevoir Lionel. C'est la chanson, bien sûr, des Yemi Alade. Jean-Jean Marfagnon, on a passé le temps pour avoir Lionel aujourd'hui. Lionel nous a donné, il a été très gentil, il a dit, je connais mon frangin Henri Désiré, il faut lui donner d'abord son temps. Et effectivement, tu es là, tu voulais poser une question. Je viens de te tutoyer parce que tu es mon frère, mais quand je te vous vois quand même, bien. Parce qu'on est à l'antenne. Mais vous aimez beaucoup, Georges, vous allez poser, voilà, poser une question.
Oui,
c'est une question importante.
Oui. Donc, merci Roger. Henri... On le sait, quand il y a eu la pandémie de la Covid-19, l'Afrique n'était pas préparée, beaucoup de pays n'étaient pas préparés, surtout le continent. Et quand, parmi les mesures de riposte, on parlait d'un CDC africain qui devait être logé au Ghana, qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un centre de prévention des maladies infectieuses qui pourrait être sur le continent aujourd'hui?
Absolument, c'est une réalité et on a même déjà nommé le responsable. Je vous informe que c'est un médecin congolais, d'origine congolaise, qui a été désigné lors d'une réunion justement de l'Union africaine qui s'est tenue il y a de ça quelques mois à Addis Abeba et qui avait d'ailleurs donné lieu à, je dirais, une passe d'armes entre le Rwanda et la RDC, le Rwanda qui ne voulait pas du candidat de la RDC, mais fort heureusement les choses ont pu finalement être résolues. En fait, c'est déjà une réalité et je pense que c'est un instrument qui devrait permettre au continent africain d'être beaucoup mieux préparé qu'il ne l'a été évidemment lorsque il y a eu le déclenchement de la pandémie de la Covid-19 entre 2019 et 2020. Mais cela n'exonère pas les pays africains de pouvoir développer en interne, je dirais, un mécanisme médical, en tout cas un dispositif médical qui soit un énorme acceptable pour éviter les drames auxquels nous avons assisté durant cette pandémie.
Une très bonne réponse. Merci beaucoup. Hein, et Roger, je crois que...
C'est très important.
Mais oui, il a bien développé.
Ouais, Henri, j'ai aussi une autre question en fait, dans ce sens-là. Parlons un peu de... Comment vous voyez le rôle de la société civile, hein, parce que je sais que vous travaillez aussi avec certains d'entre eux que vous voyez souvent, comment vous voyez le rôle de la société civile et des entreprises dans la réalisation des objectifs de développement durable et de la promotion de la solidarité mondiale, hein? Est-ce qu'ils ont aussi quelque chose à voir?
Bien sûr. Les sociétés civiles ont un rôle évidemment essentiel. Ce que nous appelons société civile sur le continent africain, en Occident, les corps intermédiaires, ce sont effectivement des intermédiaires entre les institutions et bien évidemment la population. Dans les pays africains, par exemple, il faut savoir que certaines aides importantes transitent par des ONG qui sont identifiées localement lorsqu'elles sont nationales comme appartenant à la société civile parce qu'il y a un ancrage sur le terrain, une meilleure connaissance de la réalité qui fait parfois défaut aux gouvernants.
Oui,
c'est la raison d'ailleurs que les sociétés civiles, selon moi, et ça n'engage que moi, ont encore beaux jours devant eux puisqu'ils sont les aiguillons de la société et c'est à travers eux que les évolutions se font ressentir. Vous savez, il y a parfois une frontière très ténue entre les sociétés civiles et la politique. Lorsque vous prenez le cas du Sénégal, par exemple, dans les années 2005-2008, vous aviez des mouvements comme le Ballet Citoyen, Yonamar, qui venaient de la société civile, mais qui, face à la persistance de la crise, ont pris leur responsabilité. Par rapport aux objectifs de développement durable,
il y a
des relais dans la société pour vulgariser, pour promouvoir et rappeler l'importance de pouvoir atteindre ces objectifs.
Exactement.
L'intérêt bien compris des populations.
Exactement. Merci beaucoup. Henri Desrézouzi, le temps nous fait défaut. Avec vous, on peut vous garder 24 heures sur 24. Hein, et on peut toujours apprendre, ça c'est sûr. Vous avez les salutations de Serge Boïka qui nous capte à Kinshasa. Henri Desrézouzi, je rappelle que vous êtes producteur du GT diplomatique, contributeur à VOA et consultant à Made in One TV. Merci beaucoup Henri Desrézouzi.
Merci à vous.
Voilà, ciao ciao. Je dis merci à notre équipe. Hein, merci à Georges, je dis à Jean-Léonard Fagnon aussi, à notre équipe. Qui nous a aidé
Joselle, Lionel, Nick.
Et qui encore fait la vidéo.
Rob McLean.
Voilà, Rob McLean qui a fait la vidéo. Merci à tout le monde, les amis. On se retrouve demain avec plus d'invités. Merci à Jean-Louis Maffema qui est avec nous. Je ne peux que vous dire, la nuit porte conseil. Jobless, Peace Africa.